franceinter.fr.
Le journal Bruno Duvic.
Bonjour.
Au sommaire aujourd'hui, le professeur Lantieri, invité du journal de 13h. Son équipe à l'hôpital Georges Pompidou à Paris vient de réaliser une première mondiale, une deuxième greffe de visage sur un patient. Récit de l'opération, comment se porte Jérôme Hamon, le patient? Quel progrès dans les greffes du visage? Les réponses de Laurent Lantieri dans quelques minutes. Emmanuel Macron entraînera-t-il les voisins européens dans ses projets de réforme de l'Union? Nouveau discours ce matin au Parlement de Strasbourg. Est-ce qu'il fait toujours figure de leader européen ou est-il un peu plus isolé qu'en septembre dernier lors de son discours à la Sorbonne? Nous verrons cela avec Quentin Dickinson. Le match de football le plus sympathique de la saison ce soir, deux petits face à face en demi-finale de la Coupe de France, Les Herbiers et Chambly. Nous serons en direct dans les deux communes. Oui, on ne se refuse rien. Dans ce journal encore, des émeutes dans le quartier du Mirail à Toulouse. La grève à Air France, quel est le niveau de rémunération des pilotes? À la SNCF, la grève reprend ce soir. Et puis nous parlerons évidemment du beau temps qui arrive enfin. Les détails tout de suite. Vous êtes les bienvenus dans le journal de 13h. Et oui, car pour beaucoup d'entre vous, ce sera le fait marquant de cette journée. Enfin, il revient. Qui ça? Le soleil. Après un début de printemps passablement pourri, après un hiver marqué par des épisodes d'inondations et de neige importants, voilà du beau, voilà du chaud. Détail avec Sébastien Léas dans une seconde. D'abord, Maglone, elle est à Nîmes, sous un marronnier. Un œil sur son petit-fils qui fait du vélo.
Franchement, là, on était un peu malheureux avec la pluie, hein, parce que les crachets bretons ou les pluies sévenoles bien fortes, non. Il nous manque le soleil pour revivre et ressentir la joie de vivre. Il fait doux, on est bien, les enfants sont heureux. Voilà, c'est la définition du bonheur, ça.
Mais oui, elle a raison, Maglone, interrogée hier à Nîmes, car il faisait beau dès hier à Nîmes, par Nina Valette de France Bleu, gare Lozère. Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Que dit Météo France? Beau dès aujourd'hui, partout?
Alors partout, presque partout pour aujourd'hui, puisque quelques nuages fleurissent sur le relief de l'Est, pouvant aller jusqu'à donner une averse passagère sur les collines provençales et la montagne corse. Et le temps est plus nuageux également sur le Finistère, avec des nuages qui transitent en marge d'une perturbation qui circule, elle, sur le proche Atlantique. Mais sur le reste du pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est le soleil qui règne sans partage. Et évidemment, les températures en profitent, gagnant 4 à 5 degrés par rapport à hier. Hormis quelques plages, il fera plus de 20 degrés quasiment partout, avec par exemple 22 degrés pour Paris, Aurillac, Nancy, Bastia ou encore Tours. Et puis là-haut, c'est encore plus remarquable dans le sud-ouest. À Toulouse et Biarritz, par exemple, il faisait hier 15 degrés et on attend 24 degrés cet après-midi.
Et ça va durer 6 mois, hein, c'est bien cela?
Alors non, ça ne va pas durer 6 mois, ça va durer au moins 7 semaines. Dès demain, tout le monde sera logé à la même enseigne avec un soleil radieux. Les températures vont encore progresser avec 22 à 26 degrés sur la moitié nord, jusqu'à 28 degrés dans le sud-ouest. Soleil et chaleur domineront encore jeudi, avec 28 degrés pour Paris d'ailleurs. Et ces conditions estivales chaudes et ensoleillées vont persister jusqu'au week-end. Un temps plus variable devrait se mettre en place à partir de lundi prochain, avec des températures en baisse, mais qui resteront au-dessus des valeurs de saison. Et puis j'insiste quand même, cette chaleur accélère la fonte de la neige et le risque d'avalanche devient plus élevé. Il faut donc rester très prudent.
Et il fait très beau en métropole, mais en Martinique, il y a une vigilance forte, pluie, orage jusqu'en fin de matinée, heure locale, milieu, fin d'après-midi en métropole. Il est tombé des grêlons en Martinique, ce qui est rarissime. On vous raconte cela à la fin de ce journal. Merci Sébastien. Tout est incroyable dans cette histoire, l'histoire de Jérôme Hamon qui vient d'être greffé du visage pour la deuxième fois. C'est une première mondiale, hôpital Georges Pompidou à Paris, équipe du professeur Lantieri qui sera avec nous dans un instant. Jérôme Hamon a 43 ans, il aura donc eu 3 visages au cours de sa vie. Bonjour Véronique Julien.
Bonjour.
Avant d'entendre Laurent Lantieri avec vous, Véronique, d'autres détails de cette histoire.
Eh bien, Jérôme est atteint depuis la naissance de neurofibromatose. C'est une maladie génétique assez fréquente. Elle provoque dans 1% des cas seulement des déformations très importantes du visage. Il y a encore 10 ans, Jérôme était littéralement défiguré. La partie droite de son visage s'était complètement effondrée. Difficile dans ces conditions de sortir et d'assumer bien sûr le regard des autres. C'est en 2010, à la demande de Jérôme, que l'équipe du professeur Lantieri décide une première greffe totale du visage. Tout se passe bien pendant 5 ans. Jérôme en a même écrit un livre en 2015 pour dire à quel point l'opération avait changé sa vie. Mais des complications arrivent à l'été 2016. Après une prise d'antibiotiques, Jérôme commence à rejeter le greffon. Son visage se nécrose. Si on ne fait rien, Jérôme va mourir. Les médecins décident alors de lui retirer le visage. C'était en novembre dernier. Pendant 2 mois et demi, Jérôme va vivre quasiment la chair à vif en soins intensifs. intensif en attendant un donneur. Ce donneur est finalement trouvé à la mi-janvier. L'opération est programmée le lendemain. Après 22 heures d'intervention, Jérôme sort du bloc opératoire avec donc ce troisième visage. Il faut maintenant se l'approprier. Le donneur avait 22 ans, Jérôme en a 43. Il fait donc très jeune. Médicalement, les traitements anti-rejet restent lourds avec des effets secondaires importants, des risques d'infection. Il faut aussi réapprendre à parler, attendre que les nerfs du visage repoussent pour récupérer de la mobilité. Jérôme est donc encore hospitalisé et son élocution reste difficile, mais vous allez l'entendre, le moral est assez bon. Aujourd'hui, dit-il, je vais bien.
Je me sens très bien. J'ai quand même des périodes de très grande fatigue, mais deux années, je me sens bien.
Et nous sommes à présent avec le chirurgien qui a dirigé l'équipe qui a réalisé cette opération à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Bonjour Laurent Lantieri.
Bonjour.
Et il faut peut-être d'abord insister sur la personnalité hors norme de ce patient.
Bah oui, Jérôme a donc subi deux greffes de visage, deux greffes de face, et accepté d'aller deux fois sur le même terrain et surtout d'accepter pendant trois mois de ne pas avoir de visage est quelque chose d'assez exceptionnel.
Racontez-nous l'opération donc dans la nuit du 15 au 16 janvier dernier. J'imagine qu'il faut préparer le patient et ensuite comment ça se passe? C'est comme poser un masque. Racontez-nous cette opération.
Alors au-delà de préparer le patient, il y a toute une équipe à préparer et toute une équipe de personnel paramédical, d'anesthésiste réanimateur. S'est mis en route et puis surtout l'attente pendant de plusieurs mois d'avoir un donneur potentiel et cette opportunité grâce à une famille absolument généreuse et grâce à la coordination de l'agence de biomédecine d'avoir un donneur. Donc un dimanche soir, dimanche 15 janvier, je reçois un appel en disant vous avez un donneur en province et à ce moment-là j'ai appelé dans mon hôpital, il était 10h30 du soir le dimanche et 1h30 après tout était prêt, toutes les équipes étaient prêtes à coordonner pour faire l'intervention qui s'est déroulée du lendemain matin jusqu'au lundi, jusqu'au mardi matin. Et d'abord aller prélever une face sur un donneur, donc on prélève toute la face ou le visage. Mais on restaure, c'est ça qui est très important de comprendre, c'est qu'on respecte les morts et qu'on restaure le visage du donneur avec un masque qui est fait avant pour pouvoir le rendre à sa famille. Et ce visage, il est constitué de peau, de muscles, de nerfs, de vaisseaux qui vont irriguer pour donner le sang, pour donner la vie. Et lorsqu'on l'amène sur le receveur, sur Jérôme, qui lui n'a plus de visage, puisqu'on a été obligé de l'enlever à cause de son rejet, on rebranche les artères, on rebranche les veines et la vie réapparaît.
On est trois mois après cette opération. Où en est-on?
Alors, on avait des craintes. Moi, j'avais des craintes sur le rejet hyper aigu, car Jérôme avait développé des anticorps contre son propre greffon. Et je craignais qu'en mettant un nouveau greffon, une nouvelle face, il fasse de nouveau un rejet. Il a fait un rejet, mais tout à fait modéré, qui a été parfaitement bien contrôlé. Et trois mois après, ce danger semble s'éloigner. Il va bien, aussi bien qu'on puisse aller après 8 mois d'hospitalisation, après 3 mois sans visage et 3 mois après une greffe et des traitements qui sont extrêmement lourds. Il a pu sortir, aller un week-end dans sa famille en Bretagne et on espère dans les semaines qui viennent qu'il va pouvoir sortir définitivement.
Est-ce qu'il y a un moment où vous pourrez vous dire « c'est bon, la greffe a pris définitivement » ?
Alors, la première phrase, c'est bon, la greffe a pris, je peux le dire aujourd'hui, mais oui. Définitivement, je ne pourrai jamais le dire. Car dès qu'on a une greffe d'organe, il faut que les gens comprennent ça. Dès qu'on a une greffe d'organe, il faut prendre des médicaments à vie. Ces médicaments ont des effets secondaires, ça c'est le premier point. Et deuxièmement, ces organes sont toujours soumis à une forme de rejet qu'on appelle un rejet chronique. C'était le cas de son premier greffon, ce qui fait qu'on ne sait jamais si dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans, eh bien, ce greffon ne va pas de nouveau se détruire à cause d'un phénomène de rejet qui, lui, s'est étalé sur le long terme.
Professeur,
c'est vrai dans tous les organes, c'est pas spécifique au visage.
Professeur Lantieri, il y a eu 40 greffes de visage dans le monde. La particularité, et c'est une première mondiale, on le redit, de cette opération-là, c'est que c'est la deuxième greffe de visage sur un même patient. Qu'est-ce qu'elle vous a appris, à vous, le médecin?
Alors, ce que nous a appris, c'est que c'était possible. Et que maintenant, lorsque on envisage de faire une greffe de visage à un patient, la question qui était posée jusqu'à présent, c'est qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? la seule réponse que nous avions, si ça ne marche pas, le patient finira par décéder parce que nous n'avons pas de solution. Eh bien, la réponse aujourd'hui, c'est que, eh bien, on peut, dans certains cas, bien que ce soit extrêmement complexe, extrêmement difficile, et beaucoup plus difficile que la première fois, eh bien, on va pouvoir regreffer. Et ça, c'est vrai pour toutes les greffes, c'est vrai pour les greffes cardiaques, pour les greffes de foie. Pouvoir dire ça à un patient, ça change fondamentalement l'éthique de la greffe.
Il y a un aspect psychologique dans cette histoire. Jérôme Hamon a donc 43 ans, il a le visage d'un homme de 22 ans. Ma première question portait sur sa personnalité. Comment est-ce qu'il est aidé? Il y a un soutien psychologique au-delà des médicaments?
Oui, il y a un soutien psychologique. D'abord, il y a une présence. D'abord, il est aidé par sa famille, c'est très important. Il est très entouré par sa famille qui vient très régulièrement, très entouré par des amis fidèles qui se relaient à son chevet. Hier soir, quand je suis passé dans sa chambre, il y avait deux de ses amis qui y passaient et que j'ai vu très régulièrement et qui sont là. Et ils ont fait un tour chacun. C'est très important, l'environnement autour. On ne peut pas se permettre de faire ses rêves à quelqu'un qui est totalement isolé. Il faut vraiment qu'il y ait un soutien psychologique, non seulement hospitalier, mais à l'extérieur aussi. Et puis, c'est aussi un soutien psychiatrique. Il est suivi par des psychiatres depuis le début. C'est important parce qu'il a fait effectivement des phases de dépression et on en serait à moins vu l'impact très important de sa maladie et de ce rejet.
Laurent Lantieri, que nous avons interrogé en fin de matinée après cette opération exceptionnelle à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Tout autre sujet dans le domaine de la santé, moins impressionnant, mais qui concerne potentiellement plus de personnes. À Toulouse, l'assurance maladie rembourse les consultations chez les psychologues et psychothérapeutes libéraux. C'est en test depuis un mois et pour 3 ans. L'objectif, c'est de faire baisser la consommation d'antidépresseurs. Stéphane Garcia, donnez-nous les détails pratiques.
Alors, vous êtes concerné si vous avez entre 18 et 60 ans et que vous êtes à la Sécurité sociale de Haute-Garonne. Il vous faut d'abord vous rendre chez votre médecin traitant qui va vous délivrer une ordonnance pour un premier rendez-vous bilan avec un psychologue. Si le spécialiste évalue des troubles mentaux jugés de faibles à modérés, on vous prescrira une série de 10 séances. Et s'il le faut, une nouvelle série de 10 rendez-vous sera fixée. Pour ce qui est du paiement, aucune avance de frais n'est demandée. C'est la CPAM qui règle directement le professionnel à condition qu'il soit agréé par l'agence régionale de santé. Du côté des psys, on approuve l'expérimentation. Oui, cela peut faire baisser la consommation de médicaments, mais le tarif de remboursement est trop faible pour les praticiens libéraux, explique Patrick Bouchaïb. Il est psychologue toulousain.
Le prix de la consultation d'évaluation, 32 euros, n'est pas, à mon avis, cohérent. Le prix des consultations ensuite de suivi de 22 euros ne correspond à rien. Il ne faut pas oublier que les psychologues qui vont recevoir dans le cadre de cabinet, que les consultations, que de l'ordre de, on va dire, 50 à 60 euros en moyenne en France, suivant les régions.
Pour l'instant, sur les 400 psychologues et psychothérapeutes est recensés par l'ARS en Haute-Garonne, un quart se sont portés volontaires pour intégrer l'expérimentation.
À propos de santé encore, on a appris ce matin que notre président de la République buvait trop. Emmanuel Macron a récemment confié boire du vin midi et soir. Il est dans la moyenne des Français, commente l'épidémiologiste Catherine Hill, qui était l'invitée de nos confrères de France Info ce matin. Mais c'est trop. Nous vous avons parlé ces dernières semaines du climat qui se durcit dans les banlieues. Des enseignants en grève pour protester contre la violence dans un lycée de Stains. La démission du maire de Sevran, tout cela en Seine-Saint-Denis. Le maire fatigué de manquer de moyens. Voici maintenant des violences urbaines à Toulouse, quartier du Mirail. Elles ont commencé dimanche et puis plus encore la nuit dernière. 18 personnes interpellées. Frédéric Bourgade.
Après les violences de cette nuit, le calme. Et la stupeur.
Franchement, on comprend rien à ce qui se passe entre les forces de l'ordre et les jeunes. Même nous, on n'est pas en sécurité.
Le bilan, 20 voitures brûlées, 18 interpellations et des images dont les enfants de Sonia se souviendront.
Voiture incendiée, cocktail molotov, jet de pierre, affrontement entre CRS et les jeunes. Le bruit d'hélicoptère, il était assez impressionnant, juste en haut de l'immeuble.
Il y a officiellement deux explications à cette violence. Le contrôle d'identité d'une femme handicap dimanche dernier et la mort en prison samedi d'un jeune de 26 ans. Sur ce suicide, il y a une rumeur que raconte ce jeune émeutier.
Les matins, ils ont bombé un détenu à 16, nous on se venge.
Qu'est-ce que ça veut dire bomber un détenu?
Ils l'ont tué.
Il ne s'est pas suicidé?
Non, ça c'est ce qu'ils disent. Déjà, quand ça se passera bien dans les prisons, on ne viendra pas mettre le zbeul dans les cités.
Une enquête interne est ouverte, une autopsie prévue, mais cette mort est un prétexte, explique Didier Martinez, syndicaliste policier.
Il y a eu de conséquentes saisies de substances, il y a eu des interpellations, et ces gens-là qui considèrent que leur territoire est outragé par la présence policière réagissent avec ce climat de tension et d'hostilité dès qu'il y a trop de forces de l'ordre à leur goût.
Toulouse, Frédéric Bourgade, France Inter.
Et dans les quartiers sensibles, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron entre en vigueur aujourd'hui. Les emplois francs, une prime pour les entreprises qui recrutent des candidats d'un quartier prioritaire. 5000 euros de prime par an pendant 3 ans pour un CDI.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
21h ce soir se tient l'un des matchs de football les plus rafraîchissants de la saison. Demi-finale de Coupe de France, deux petits face à face. Les Herbiers, Chambly, deux clubs de National, la troisième division. Le match à la Beaujoire, à Nantes, il n'y a pas assez de place aux Herbiers en Vendée pour accueillir les nombreux supporters. Mais nous allons quand même aux Herbiers. Bonjour Benjamin Mathieu.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Vous êtes chez Mario Benjamin, le bar des sports, QG des supporters, quelle ambiance ?
Ah bah c'est le branle-bas de combat ici au QG des supporters, on prépare les drapeaux, il y en aura 10 000 fanions aux couleurs des Herbiers, le rouge et le noir. Au stade de la Beaujoire ce soir, à cela s'ajoutent 700 grands drapeaux et surtout un immense tifo qui sera déployé au coup de sifflet. Il faut dire que les Herbiers jouent presque à domicile, une bonne partie des 35 000 spectateurs soutiendra les Vendéens. Le stade est à moins d'une heure, à environ une heure de voiture d'ici, la mairie qui a en plus affrété 16 bus pour emmener gratuitement les supporters depuis le stade du VHF. Et c'est là d'ailleurs que se tiendra ce soir, quel que soit le résultat, une grande fête pour accueillir et remercier les joueurs à leur retour. En tout cas, ici, tout le monde est à fond. Tous ceux qui sont encore au bureau s'échangent des photos d'eux portant le maillot rouge et noir. Et ici, chez Mario, on se chauffe tranquillement, la voix, bien sûr.
Merci Benjamin Mathieu. Nous allons à Chambly. On ne prend pas parti dans ce journal. Chambly, dans l'Oise. Bonjour Guillaume Batin.
Bonjour Bruno.
Vous êtes place de la mairie où tout va se passer. Ce soir, il y a 10 000 habitants à Chambly. Il y en aura 1000 au stade de la Beaujoire ce soir. Ça en fait quelques-uns de reste dans le village et sur la place.
Ouais, dans une ville, plus qu'un village de 10 000 habitants, depuis 2 mois, où tout est prêt maintenant pour vivre ce grand soir. Il y a des fanions, là encore, en rupture de stock, aux couleurs du club, partout dans le centre-ville, jaune, noir et bleu, jusqu'au bac à fleurs. Tous les commerces ont reçu un kit de décoration, et on ne parle évidemment que de ce match au comptoir du bar brasserie La Civette, sponsor du club depuis 3 ans, où se retrouvent les supporters après les matchs de National. Le patron, Mickaël, assure le service encore quelques minutes, et après, il filera à Nantes, à la Beaujoire, en voiture, à 430 km de là, rejoindre Richard, l'un des meilleurs chanteurs du Cop Oise.
On est à fond, c'est normal. Et ici, c'est la fête nationale aujourd'hui. Les enfants n'ont pas école. Hein. Quand on se déplace, en général, c'est parce qu'on y croit, parce qu'on a été à Auxerre, on a été à Châteauroux, on nous donnait perdants, mais bon, on est encore là. On est là, on est là.
Et pour les Camblisiens et Camblisiennes qui ne sont pas du déplacement, il y a une grande répétition des chants de supporters et un stand de maquillage dès 19h. Le match sur grand écran à partir de 21h qui est en cours de montage devant la mairie. Chambly est prête pour le grand soir.
Merci beaucoup Guillaume Batin. Et en effet, 10 000 habitants, c'est une ville. Hein. C'est pas un village, vous avez bien raison. Le coup d'envoi, c'est donc à Nantes à 21h, stade de la Beaujoire. Dans la région Nantes, Notre-Dame-des-Landes également, y a-t-il une reprise du dialogue possible? En tout cas, les occupants se disent aujourd'hui favorable à une rencontre au plus vite avec la préfète de Loire-Atlantique et des Pays de la Loire. Plus de 6 mois après la Sorbonne, le nouveau discours d'Emmanuel Macron à l'Europe. C'était ce matin devant le Parlement de Strasbourg. Le président français tente la définition d'une voie qui se veut en même temps modérée et ambitieuse.
Certains, imputant tous nos maux à une Europe honnie, fuyant ainsi leurs propres responsabilités, nous disent avec aplomb que les peuples ne veulent plus de l'Europe. Ils proposent des voies dorées. Parfois, on les croit, ils se soustraient ensuite à leurs responsabilités quand il faudrait conduire leur peuple jusqu'au bout de cette aventure. D'autres affirment sagement que nous ne devons pas hâter le pas pour ne pas brusquer les peuples, que ça serait faire le jeu des populistes. Ceux-ci voudraient s'habituer à une musique qu'on connaît bien, celle parfois de la paralysie, ne prenant pas conscience du temps qui est le nôtre. Je crois que rien n'est plus faux, qu'il serait commode, en effet, de dissoudre le peuple ou d'exciter ses passions pour éviter de proposer un chemin. De critiquer sans proposer, de détruire sans rebâtir. Ce n'est pas le peuple qui a abandonné l'idée européenne. C'est la trahison des clercs qui la menace.
Emmanuel Macron, ce matin à Strasbourg, deux propositions concrètes dans ce discours. Un programme, un fonds européen pour financer les collectivités locales qui accueillent les réfugiés. Et le président français plaide pour une taxe aux frontières pour le dioxyde de carbone. Alors en septembre dernier, Emmanuel Macron essayait de prendre le lead en Europe avec son discours de la Sorbonne. 80 initiatives pour renforcer la zone euro, élargir le programme Erasmus, taxer davantage les géants du numérique. Où en est-on ? Bonjour Quentin Dickinson.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
L'homme qui connaît tout des affaires européennes, Quentin Dickinson, est-ce que depuis septembre Emmanuel Macron a avancé ou est-ce qu'il est un peu plus isolé qu'à l'automne ?
Eh bien, il faut rappeler qu'aux yeux des eurodéputés de tous bords, Emmanuel Macron est ce candidat inattendu qui a réussi l'exploit de se faire élire à la plus haute fonction dans son pays sur la base d'une campagne et d'un programme résolument euro-constructif. Cela bousculait tous les préceptes qu'on tenait jusque-là pour lettre d'évangile et qui servaient de paravent à l'euro-indolence, voire à l'Europe honteuse, qui de façon croissante ont été affichés par les ténors des partis traditionnels de centre-gauche comme de centre-droit. Les discours de la Sorbonne et d'Athènes auront durablement conforter cette première impression. Jeune, moderne, décidé, ce Macron-là a tout pour plaire, sauf qu'il est français, et l'activité soutenue et simultanée qu'il aura déployée sur tous les fronts depuis son élection engendre une certaine méfiance, en particulier de la part de pays européens de taille plus modeste. C'est l'explication des revers qu'il aura subis sur deux projets qui lui tenaient à cœur, celui de la liste transnationale aux élections européennes et celui de la création d'un parti pan-européen sur le modèle de la République En Marche, deux propositions, à défaut d'être mornées, qui se voit reporté de 5 ans. Mais non, Emmanuel Macron n'est pas isolé. Le précédent déséquilibre franco-allemand s'est certes inversé au bénéfice de la France, mais Angela Merkel est toujours là, en soutien moins réticent qu'on a pu le dire. Et les déplacements constants d'Emmanuel Macron dans les capitales de l'UE contribuent à créer une nouvelle dynamique fondée davantage sur le travail commun, sur des dossiers précis.
Merci Quentin Dickinson. À Strasbourg ce matin, il y avait aussi Cyril Graziani du service politique de France Inter. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Ah oui, la politique française a bien vite rattrapé le président de la République lors de cette séance au Parlement de Strasbourg.
Et c'est l'écologiste belge Philippe Lamberts qui a lancé les hostilités, critiquant vertement la gestion à Notre-Dame-des-Landes.
Où est la liberté lorsque des policiers armés débarquent au petit matin pour arrêter un groupe de jeunes dont le seul tort serait d'avoir occupé pacifiquement un chantier ? Ma fille en était. Elle fut emmenée devant son fils de 2 ans, loin de chez elle, pour subir pendant toute une journée un interrogatoire. Dans votre France, l'état de droit garant de nos libertés s'éloigne jour après jour.
Florian Philippot, de son côté, n'a qu'un message à passer.
Vive le Frexit, vive la liberté de nos nations, vive la France libre. Merci.
Et c'est au chef des patriotes qu'Emmanuel Macron répond en premier.
Moi, je suis étonné que vous puissiez dire ce que vous ayez dit sur cette assemblée dans laquelle vous êtes. Vous y avez été élu par le peuple français. Vous avez un drôle de respect pour le peuple français de traiter comme cela la fonction qu'il vous a confiée.
Le chef de l'État étrit ensuite l'écologiste belge.
Je ne peux vous laisser dire les bêtises, pardonnez-moi de ce terme, que vous avez ainsi proférées. Les gens qui manifestaient contre ce projet, est-il légitime de les laisser manifester et attaquer les forces de l'ordre quand il n'y a plus d'origine à leur manifestation ? Et on ne peut construire aucun projet si on ne respecte pas les règles de la République.
Emmanuel Macron a dû aussi justifier l'intervention en Syrie. Le chef de l'État était venu parler d'Europe. Certains eurodéputés l'ont renvoyé à sa politique nationale et internationale. Ce n'était pas l'objectif de l'Élysée.
Merci Cyril Graziani. La politique en France, c'est encore Gérard Larcher, le président du Sénat, qui demande un réexamen du texte pour la révision constitutionnelle. Ce sont les députés, les Républicains, qui voteront à une très large majorité la réforme de la SNCF. C'est ce qu'annonce le chef de groupe Christian Jacob aujourd'hui. Nouvelle journée de grève à la SNCF, tout comme chez Air France. Alors parlons des gares d'abord. Cela reprend ce soir, la grève, plus encore demain matin. Les détails de la circulation des différents trains, on les connaîtra dans l'après-midi. À l'heure actuelle, la SNCF garantit 250 TGV demain. Chez Air France, 70% des vols assurés. Tous les personnels sont en grève pour de meilleurs salaires et le dialogue est très difficile entre la direction et les pilotes en particulier. Bonjour Manuel Ruffez.
Bonjour.
Ce matin, nos confrères du Figaro n'aidaient pas les pilotes dans leurs négociations en publiant une enquête sur leur rémunération avec des chiffres assez, voire très élevés. Manuel, que sait-on des rémunérations des pilotes chez Air France ?
Et ben voilà, des chiffres impressionnants et qui tombent à point nommé en plein conflit et revendications salariales, mais évidemment totalement démentis par les syndicats. Alors voilà ce que dit l'enquête du Figaro. Tous les personnels navigants, du commandant de bord aux hôtesses et stewards, gagnent en rémunération brute annuelle plus que dans les compagnies nationales voisines que sont l'allemande Lufthansa et l'anglaise British Airways. Ce qui donne par exemple, pour les commandants de bord long courrier, un salaire brut de 250 000 euros par an. En début de carrière, est-il précisé, on imagine l'impact sur l'opinion publique. Bien entendu, les syndicats affirment que ces chiffres n'ont aucun sens. Je ne connais personne à ces niveaux de rémunération autour de moi, dit ce matin Philippe Évin, le patron du principal syndicat de pilotes d'Air France. Un copilote moyen courrier, par exemple, gagne en début de carrière entre 10 et 15 000 euros de moins que les chiffres avancés, affirme-t-il. Bref, difficile d'y voir clair, argument chiffré, contre-argument chiffré. On s'aperçoit juste, dans l'enquête du Figaro, qu'après impôt, les rémunérations des uns et des autres sont beaucoup plus semblables d'un pays à l'autre.
Merci Emmanuel Ruffez. Le mouvement de contestation dans les universités, blocage reconduit à l'université de Rennes 2. À Strasbourg, la présidence de l'université lance un vote en ligne pour que les 51 000 étudiants puissent s'exprimer. À Nanterre, les cours et examens prévus ce mardi n'auront pas lieu. À Montpellier, le campus est rouvert aux étudiants et au personnel, même si l'université est encore partiellement bloquée. Et puis toujours cette menace d'évacuation de Tolbiac, le président de Paris 1 dénonçant le capharnaüm dans l'université. Une manifestation surprenante cet après-midi devant l'Assemblée nationale. Manifestation de meilleurs ouvriers de France. Ils seront une centaine et en fait, ils redoutent que l'éducation nationale dévalorise leurs titres et leurs diplômes. Écoutez, Bernard Perrault, meilleur ouvrier de France, charcutier traiteur.
L'éducation nationale veut reprendre la main sur ce concours qui est un concours de professionnels. Elle n'a pas à interférer les décisions. Bien évidemment, on a besoin d'éducation nationale parce que c'est aussi un diplôme de niveau 3 depuis quelques années. Mais par contre, on ne veut pas perdre le métier, quoi. Et ce qui est important pour nous, professionnels, c'est la transmission du savoir, c'est plein de choses comme ça, les valeurs professionnelles, etc. Et donc, le savoir-faire pour nous est primordial. C'est un vrai diplôme qui a été instauré tout à fait en début du XXe siècle, c'est-à-dire 1920 ou 26 de mémoire, et qui prône l'excellence. On ne doit pas brader l'excellence dans ce pays, on en a besoin. J'ai parlé de transmission, mais c'est aussi le reflet de la France à l'étranger.
À propos recueilli par Béatrice Duguay, quel est ce titre de meilleur ouvrier de France? Vous trouverez des précisions sur franceinter.fr. Une exposition avant la météo. Cette exposition intéressera à la fois les amateurs d'art, de géographie, d'histoire et de sciences. L'épopée du canal de Suez à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Visite avec Isabelle Pasquier de cette expo où l'on entend et voit un discours historique, en particulier dans le monde arabe.
Au cœur de cette exposition très documentée, ce discours de Nasser qui annonce la nationalisation du canal de Suez en juillet 56. Le canal de Suez a cristallisé des enjeux économiques, géopolitiques, car il va relier l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Et ses 193 kilomètres ont irrigué les imaginaires orientaux et occidentaux. Gilles Gauthier, directeur scientifique de l'exposition.
Dans l'imaginaire égyptien, il y a à la fois une vision romantique de ce canal, mais il y a également le canal vu comme instrument d'oppression, à travers la corvée notamment, mais instrument de domination étrangère, après l'occupation par la Grande-Bretagne. Et puis dans l'esprit des Européens, le canal, c'est le passage Orient-Occident.
Nasser dénoncera 120 000 morts parmi les fellahs, les paysans qui y travaillent dans de terribles conditions. Et l'exposition montre que la Statue de la Liberté a été créée au départ pour le canal de Suez, Nicolas de Lesseps, descendant de Ferdinand de Lesseps.
Bartholdi s'est dit, mais pourquoi ne pas créer quelque chose qui soit vraiment propre à l'Égypte et qui soit la création d'un personnage qui n'a pas été retenu parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers de lui donner l'accord. Mais cette idée est restée et a été développée par la suite et transformée dans la Statue de la Liberté.
Et ce sont les trompettes d'Aïda qui devaient résonner pour l'inauguration du canal. Sauf que Verdi n'avait pas fini sa partition.
L'épopée avec ou sans trompette du canal de Suez, c'est à l'Institut du Monde Arabe à Paris jusqu'au 5 août.
La météo avec Switch Assure, comparateur d'assurance emprunteur 100% en ligne. Comparer, switcher, c'est gagné. Rendez-vous sur switchassure.fr.
Et comme promis, avant d'entendre Sébastien Léas, une incursion en Martinique, vigilance orange à des fortes pluies et orages jusqu'en fin de matinée, heure locale. De très fortes averses depuis hier au François, au Robert, à Saint-Joseph, à Rivière-Pilote, au Lamantin. 1700 foyers privés d'électricité dans la matinée, heure de Paris. Des automobilistes les roues dans l'eau, secourus par hélicoptère au François. Et des grêlons, Bianca Carreto.
Je suis au François, la grêle qui a tombé, elle est nous, la grêle fort.
Des grelons tombés du ciel.
Il y a des grelons, Yann.
Quoi? Mon Dieu.
C'est du jamais vu en Martinique, précisément aux François et aux Robert. Ces averses de petites billes blanches ont duré peu de temps, suffisant pour provoquer la stupéfaction générale.
Là, ils sont encore plus beaux.
Ce phénomène météorologique est très rare et inédit aux Antilles. La Guadeloupe a déjà connu un épisode de chute de grêle. C'était en 2016.
Bianca Carreto de Martinique Première, précisant qu'il n'y a pas de blessés. Vilain temps en Martinique et très beau en métropole, Sébastien Léas.
Avec un soleil radieux sur tout le pays et des températures qui repartent nettement à la hausse, l'ambiance des prochains jours s'annonce estivale. Cet après-midi, le ciel reste quasiment tout bleu sur l'ensemble du pays. On note juste quelques bourgeonnements nuageux sans conséquence sur le relief de l'Est. De petites averses sont tout de même possibles sur les collines provençales et la montagne corse. L'Ouest Bretagne est moins bien loti avec un ciel nuageux à cause d'une perturbation circulant sur le proche Atlantique, mais le temps reste sec. Les maximales profitent de ces conditions ensoleillées et affichent des valeurs largement au-dessus des normales de saison, grimpant entre 17 et 25 degrés cet après-midi, avec par exemple 21 degrés pour Lille, Rennes, Metz et Toulon. En revanche, ce redout accélère la fonte de la neige, ce qui accentue le risque d'avalanche. Restez donc très prudent en montagne.